VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes au Sahel. Amnesty International a demandé ce lundi à la CPI, la Cour pénale internationale, l'ouverture d'une enquête formelle sur les atrocités commises depuis le début de l'insurrection des djihadistes de Boko Haram, en accusant le Nigeria de n'avoir pas traduit en justice les responsables de ces crimes. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a déjà ouvert en 2010 une enquête préliminaire sur 8 affaires présumées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit. 6 visant Boko Haram et 2 contre des militaires qui se battent contre les djihadistes. Au Niger, des journalistes d'investigation ouest-africains sont en conclave à Niamey, la capitale. Les débats sont dominés par la situation sécuritaire dans le Sahel et les difficultés liées à la couverture des attaques terroristes. Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako, a fait le déplacement de Niamey.
Les premiers jours de la rencontre des journalistes d'investigation ont été marqués par les témoignages sur la crise sécuritaire. L'immensité de l'espace géographique du Sahel rend la lutte difficile. Moussa Ag Aksar est journaliste nigérien.
Nous avons la situation en Libye où le sud libyen est complètement occupé par des djihadistes et des trafiquants de tout genre. Vous avez la situation aujourd'hui du Nigeria où la secte Boko Haram occupe pratiquement les villes frontalières du Niger et du Nigeria. Et vous avez la situation malienne avec celle de la frontière au Burkina Faso où les groupes djihadistes sont en train de se réorganiser et ils mènent des attaques sur des postes frontaliers isolés.
Comment mieux couvrir les attaques terroristes? La question a été traitée par Ibrahim Moussa du Niger.
Généralement, pour les experts, ce qui a été conseillé aux journalistes, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'il faut approcher une situation d'attaque terroriste quand elle se présente. Parce que sans le savoir, de manière inconsciente, les médias ont pendant longtemps joué le jeu du terroriste. Dès qu'une attaque intervient, les médias traditionnels relayent des informations qui, en réalité, au lieu de desservir les terroristes, les gens, sans le savoir, ont joué le jeu.
Les enjeux géostratégiques d'Israël font que plusieurs acteurs y interviennent. Les pays africains, mais aussi les puissances internationales. Professeur Issoufou Yaya du Niger.
Aujourd'hui, c'est une course mondiale pour l'énergie. Eh bien, les meilleures sources d'énergie, elles sont au Sahel. Aujourd'hui, les ressources minérales, c'est au Sahel qu'on les a à moindre frais. Les investissements, presque tout le monde fait un mouvement pour venir au Sahel parce que l'Eldorado, du point de vue stratégique, en ce qui concerne les matières première, c'est le Sahel. Tout est là à moindre frais avec des dirigeants peu responsables et peu regardants. Si bien que chacun trouve son compte, malheureusement, sauf les Sahéliens.
Ce qui rend l'information et sa collecte difficile pour certains médias, comme les radios communautaires. Bandjougou Danté, président de l'URTEL.
Il y a des défis parce que du côté même des acteurs de la sécurité, il y a une interprétation. Il y a souvent un sentiment de mea culpa, si je peux m'exprimer ainsi, et même un sentiment de faiblesse pour ne pas dire d'abandon. Dans de tels concepts, quand vous avez des acteurs politique, quand vous avez des acteurs militaires qui parfois pour trouver des explications à des choses sont parfois dans l'accusation, ça montre quand même que nous avons une responsabilité partagée.
La question de l'équilibre de l'information n'a pas échappé aux journalistes, car il y a avant tout le droit à l'information. Ibrahim Moussa du Niger.
Même s'il faut faire l'équilibre de l'information, il faut essayer de prendre dans l'extrait de ce que disent les terroristes ou les djihadistes, quelque chose qui doit arranger la communauté, mais pas quelque chose qui va créer la psychose au niveau de la communauté. Les confrères ont dit que les difficultés auxquelles ils sont confrontés, c'est surtout leur propre sécurité. Parce qu'une fois sur le terrain, ils sont vraiment exposés. L'ennemi n'a pas de visage.
Selon le colonel-major Ali Mahamadou du Niger, les 2 dernières années, il y a eu 133 morts lors de 80 attaques au Burkina Faso. Des milliers de morts au Mali à la même période, tandis que le Niger a enregistré 40 attaques de Boko Haram entre 2015 et 2018. Niamey, Kassim Traoré pour VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
République démocratique du Congo, l'Union européenne a annoncé aujourd'hui la prolongation pour un an jusqu'à décembre 2019 de ses sanctions visant 14 hauts responsables du régime du président congolais Joseph Kabila, dont le dauphin du chef de l'État sortant pour la présidentielle du 23 décembre, Emmanuel Ramazani Shadary. Ces responsables sont accusés notamment de violence lors des manifestations en septembre 2016 et les sanctions consistent en un gel d'avoir et une interdiction interdiction de visa pour l'Union européenne. Il y a 10 jours, le président Kabila avait qualifié ces sanctions de tout à fait illégales, injustes, arbitraires et orientées politiquement. Dans un entretien avec le quotidien belge Le Soir, le leader congolais avait réitéré sa pleine confiance en tous ceux qui ont été sanctionnés. « Je sais qu'ils défendent l'état de droit », avait martelé le président Kabila. On reste en RDC. La campagne électorale qui a commencé le 23 novembre se poursuit en général sans incident majeur, mais des actes de violence ont été enregistrés dans la journée d'hier, notamment dans une ville du Kasaï. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Six partisans du candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadary disent avoir essuyé des jets de pierre. Ils pointent du doigt le parti d'opposition UDPS du candidat Félix Tshisekedi. L'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, n'a pas pu se rendre à Kindu, dans le nord-est de la RDC, à cause des violences qui auraient fait au moins 8 blessés graves, d'après une organisation de défense des droits humains. Ces premières manifestations de violence font craindre le pire pour la journée du 23 décembre et après. La CENI a lancé une mise en garde à l'endroit des dirigeants politiques, tout en précisant vendredi que la date du scrutin sera maintenue pour la présidentielle, les législatives et les élections provinciales. 21 candidats sont en liste pour succéder au président Joseph Kabila. La proclamation des résultats provisoires est prévue le 30 décembre.
Élections en Afrique toujours. Dans 9 jours à Madagascar, les 2 finalistes à la présidentielle malgache s'affronteront dans un second tour, dont l'issue marquera le retour au pouvoir d'un ancien chef d'État de la Grande Île. Soit Marc Ravalomanane, soit André Rajoel, le jeune politicien qui lui avait succédé il y a 9 ans à la tête du pays. Ce week-end, les 2 candidats ont participé à leur premier débat télévisé, nous dit Gaby Dorsil.
Pour l'ancien président Ravalomanane, le souvenir du mouvement de contestation populaire encouragé par le maire d'Antananarive en 2009 reste encore vif. Et il a promis de revenir au timon des affaires pour achever, dit-il, le travail interrompu sous la présidence non élue de M. Rajoel. Dans ce débat télévisé en direct, Ravalomanane a accusé son rival d'avoir accédé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, lequel, selon lui, a entraîné la détérioration des conditions de vie du citoyen lambda. Il se propose comme celui qui mettra fin à ce qu'il appelle le cercle de la pauvreté à Madagascar. Rajoel, lui, a joué la carte du leader tourné vers l'avenir, promettant de résorber le chômage, de favoriser l'autosuffisance alimentaire et de combattre l'insécurité. Les 2 hommes reprendront cet exercice devant les caméras et face au public 3 jours avant le scrutin du 19 décembre. Seulement 4% des suffrages les séparaient à l'issue du premier tour le 7 novembre.
République centrafricaine, la ministre française des armées Florence Parly séjourne dans le pays aujourd'hui et demain. Elle va réaffirmer à Bangui le soutien de la France à la Centrafrique où la Russie est de plus en plus présente et livrer du matériel militaire français aux forces armées centrafricaines, les FACA. Madame Parly va aussi réaffirmer l'attachement de la France à l'initiative de paix menée par l'Union africaine dans le pays, alors que la Russie tente d'engager un processus parallèle. Les manifestations en France maintenant. En France, le mouvement populaire des Gilets jaunes ne faiblit pas. Suite aux manifestations violentes du week-end, le président Emmanuel Macron va s'adresser ce lundi soir aux Français pour expliquer. Ce sera son premier discours public depuis la manifestation du 1er décembre. Rosine Mounezero nous en dit plus.
Dans cette intervention très attendue, le chef de l'État français devrait expliquer comment il compte sortir le pays de cette situation de crise qui risque d'affecter l'économie et même de s'étendre au-delà de l'Hexagone. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, indique que M. Macron offrira des mesures concrètes et immédiates, mais pas l'augmentation du salaire minimum réclamée par de nombreux manifestants. Une promesse la semaine dernière de baisser les prix du carburant s'est avérée insuffisante pour calmer la colère des Gilets jaunes. Ils étaient au moins 136 000 samedi à Paris où, selon les autorités locales, des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Après une riposte musclée des forces de l'ordre, environ 2 000 interpellations, dont plus de la moitié à Paris, le gouvernement français prend le dialogue. Le Premier ministre Édouard Philippe a parlé samedi soir de la nécessité, je cite, « de retisser l'unité nationale ». Toutefois, font remarquer les analystes, il est difficile de contenir un mouvement issu des masses via les médias sociaux, sans leader précis et surtout soutenu par une majorité de Français.
Et pour terminer, le prix Nobel de la paix sera décerné ce lundi à Oslo en Norvège aux médecins congolais de la RDC, le docteur Denis Mukwege et à Nadia Mourad, une Irakienne ex-esclave des djihadistes. Et ce, pour leur lutte contre le viol en tant qu'armée de guerre. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. www.voaafrique.com.